enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Est-ce que vous réjouissez ce soir? Et Claude m'a vraiment étonné il y a 2 minutes, là, vraiment, il m'a surpris. Il me regarde et il me dit, excuse-moi d'avoir pris le verset de Jean 7, 37. Alors je le regarde, je lui dis, mais comment tu savais que j'allais prendre ce verset? On ne s'est pas vu aujourd'hui. Il a vraiment reçu un don de prophétie très fort de la part du Seigneur. Hein. Et vraiment, on ne s'est pas concerté. Et puis il s'excuse déjà d'avoir pris ce verset. Mais il n'y a pas de problème. Aucun problème, on le reverra ensemble. Mais avant, je voudrais prendre un texte avec vous. On parle beaucoup en ce moment de la crucifixion de Jésus. J'ai relu la crucifixion de Jésus dans tous les évangiles. Et j'ai choisi ce soir de lire un extrait de la crucifixion juste dans l'évangile de Jean, au chapitre 19. Et nous lirons que 3 versets. Les versets 28 à 30. J'ai choisi ce passage parce que, eh bien, nous trouvons ici quelques circonstances particulières de la mort de Jésus qui sont plus complètes à mon sens que dans les autres évangiles. Et je voudrais m'arrêter quelques instants avec vous. On ne sera pas long ce soir. On veut laisser vraiment toute la place à la prière pour que ce soir, eh bien, des personnes soient baptisées du Saint-Esprit et que ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit déjà soient renouvelés, que tous ensemble nous soyons renouvelés par l'Esprit de Dieu ce soir. Amen. Est-ce que vous réjouissez de ces instants? Alors, prenons simplement ce texte à partir du verset 28, Jean 19, verset 28. Après cela, pour que l'Écriture soit accomplie, Jésus, sachant que déjà tout était achevé, dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient, plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est achevé ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Jusqu'ici la parole de Dieu. Je me suis déjà arrêté au verset 28 par rapport à ce que nous est écrit là. « Après cela, pour que l'Écriture soit accomplie ». Et j'ai cherché, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui devait être accompli? Quelle prophétie devait être accomplie? Et 1000 années avant cet événement, eh bien, David, dans un psaume, avait prophétisé cet instant-là. Et j'ai trouvé intéressant de relever quelques passages forts dans ce psaume 22, où David... Eh bien, on aurait dit en lisant David, 1000 ans avant, que c'était lui qui était à la place de Jésus. Et pendant des centaines d'années, eh bien, les mêmes personnes qui ont envoyé Jésus à la croix ont lu ces passages, ont lu la Torah, ont enseigné ces paroles dans les synagogues. Et à qui voulait l'entendre? Et dans le psaume 22, psaume de David, il est écrit... Et là, au verset 2, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est exactement ce que Jésus avait dit quelques instants avant. Alors que les ténèbres étaient venues à midi, alors que le soleil est à son zénith, il faisait nuit noire à ce moment-là, au moment de la crucifixion de Jésus. Nuit noire, et c'est là que Dieu dit, que Jésus dit aux gens qui étaient là, en face de tous les gens qui étaient là, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Exactement les mêmes paroles que David. Au verset 8, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres et hochent la tête. » Dans les évangiles, on voit une longue description sur les moqueries qu'avait reçues Jésus à ce moment-là. Certains disaient, « Mais vas-y maintenant, toi qui as dit que tu reconstruisais le temple, tu détruirais le temple, tu le reconstruirais en 3 jours, vas-y, descends de la croix maintenant. » Et il hochait la tête dans le livre des psaumes. Il est exactement écrit les mêmes choses. Versets 17 et 18, il est écrit là, « Je peux compter tous mes os. Eux, ils observent. Je leur suis offert en spectacle. » Verset 18, « Ils se partagent mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. Et dans le psaume 69, verset 21, il est dit ceci, « Pour apaiser ma soif, ils me font boire du vinaigre. » Frères et sœurs, quand je vois la perfection avec laquelle se réalisent les prophéties, se sont réalisées les prophéties qui concernaient notre Seigneur Jésus, lorsque je vois avec quelle perfection les prophéties qui nous concernent, nous, s'accomplissent dans notre temps, je suis vraiment encouragé dans ma foi. Vous l'êtes aussi ? Nous n'avons pas à avoir peur des temps troublés qu'il y a autour de nous. Comptons sur les promesses que l'Éternel nous a faites. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, mais dans quel monde on vit ? Il n'y a plus d'espérance. Il y a la terreur partout, il y a la crainte, il n'y a plus de travail, il y a du chômage, il y a ceci, il y a cela. Dieu dit pour nous, pour ses enfants, il y a de l'avenir et de l'espérance. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons que nous réjouir de ce que Dieu nous a promis et saisir les promesses de Dieu. Elles sont pour nous ? Elles sont pour nous ? Est-ce que vous le croyez ? Ne croyez pas que les promesses sont pour le frère Georges ou le frère Albert seulement ? Elles sont pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Toutes les prophéties concernant Jésus se sont réalisées parfaitement. Tout ce qui était écrit sur lui s'est réalisé à la lettre. Eh bien pour moi, je crois que tout ce qui concerne notre temps, toutes les promesses que Dieu a faites pour notre temps se réaliseront. C'est vrai que Dieu a dit que dans les temps que nous vivons, la haine allait augmenter, la violence allait augmenter, le vol, le mensonge, la rapine, etc. Oui, toutes ces choses vont augmenter en puissance. Je ne crois pas qu'on a encore tout vu. Mais aussi, la grâce de Dieu va augmenter. Et la grâce de Dieu va augmenter et nous en serons les bénéficiaires. Et tous ceux qui accepteront Jésus-Christ dans leur vie seront les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Donc, de grandes ténèbres sont arrivées. Dans ce verset 28, ce verset 28 se place sans aucun doute à la fin de ces 3 heures de ténèbres. Il est 15 heures à peu près. Ce fut pendant ce temps-là que Jésus fut abandonné. Et c'est là qu'il a dit au Seigneur, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'agonie de Jésus est marquée par 2 autres cris. L'un ayant trait à sa souffrance humaine, « j'ai soif », et l'autre à l'achèvement de son œuvre, lorsqu'il dit « tout est accompli » ou « tout est achevé » selon la version que l'on lit. Voyons d'abord le mot « j'ai soif », l'avant-dernier mot que Jésus a prononcé, « j'ai soif ». Bien sûr, cette soif indiquait la soif physique qui était accentuée par la crucifixion, par ce moment terrible qu'était la crucifixion. Mais il y avait aussi la soif spirituelle de Jésus. Cette soif que Jésus avait pour le salut de l'humanité, le désir de Jésus, c'était que les hommes soient sauvés. Et c'est pour cela qu'à cet instant-là, il était sur la croix, pour sauver l'humanité, pour sauver les hommes. C'est pour cela qu'il avait donné sa vie également. Il avait encore plus soif de voir les hommes sauvés au travers de son sacrifice. Les soldats alors lui donnèrent du vinaigre à boire. Ils attachèrent une éponge à une branche d'hysope, ils la pressèrent près de ses lèvres. On ne doit pas confondre, dans les autres évangiles, il y a un moment où on a voulu donner à boire à Jésus et il a refusé cette boisson. Mais ce n'était pas la même chose. La Bible nous dit que la première fois, on a donné à Jésus du vinaigre mélangé à du fiel. Pourquoi on avait essayé de donner ça à Jésus ? Tout simplement parce que ça avait un effet analgésique. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, vous avez raison. Oui, ok. J'insiste pas. En fait, ça endormait la douleur. Ça rendait la douleur plus supportable. Vous m'avez compris là, comme ça c'est plus clair. Hein. Excusez-moi, j'ai la fourche qui langue. Jésus devait porter nos péchés à nous, pas les siens, il n'en avait pas, nos péchés à nous en pleine conscience de ce qu'il faisait, pleinement conscient. Ce que Jésus buvait là, c'était en fait la boisson que les soldats romains buvaient d'habitude. Lorsqu'il faisait très chaud et par manque d'eau, Ils buvaient un vin suri qu'ils appelaient acétum à l'époque et qu'on appelle aujourd'hui du vinaigre, tout simplement. C'est cela qu'on a donné à boire à Jésus. Et on a trempé donc une éponge, quelqu'un a couru, trempé une éponge dans ce vase où il y avait cette boisson, et on a attaché cette éponge sur un bâton, et puis dans certaines versions c'est marqué roseau, dans d'autres c'est marqué tige d'hysope, et on a poussé cette éponge vers la bouche de notre Seigneur. Si la Bible donne ce détail, eh bien frères et sœurs, je ne crois pas que c'est pour rien. Quand la Bible parle d'un détail, moi j'ai l'habitude de m'arrêter et de fouiller et de chercher. Alors je me suis intéressé à l'éponge. L'éponge, pour moi, l'éponge c'était une plante qui pousse dans la mer. Et j'avais tout faux. C'est un animal. Alors ça c'était ma première surprise. L'éponge est un animal invertébré qui a l'aspect d'une plante, mais c'est un animal et issu d'une reproduction sexuée. Ces cellules embryonnaires forment des tissus bien structurés. Certaines cellules, donc ces tissus qui vont être fabriqués par ces cellules vont servir pour certains à faire circuler de l'eau et aux autres à retenir la nourriture qu'il y a dans l'eau pour que l'éponge puisse grandir. Si on met plusieurs éponges les unes à côté des autres, pas trop loin, les unes à côté des autres, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire. Les éponges vont tout doucement pousser les unes dans les autres. Elles vont être parfaitement soudées, intégrées les unes dans les autres. Et ainsi, elles ne vont former plus qu'une seule éponge. Et là, j'ai trouvé que c'était une image extraordinaire. Une image du corps de Christ. L'image du corps de Christ. Nous sommes tous membres du corps de Christ, n'est-ce pas? Nous sommes tous un bout, une partie du corps de Christ. Mais ensemble, dans la maison du Seigneur, nous servons le même maître. Nous sommes ensemble, unis pour un même but. Nous sommes ensemble, unis pour servir Jésus-Christ. À l'inverse, si l'on découpe une éponge en 10 ou 20 morceaux, et si on prend ces morceaux, on les sépare bien loin l'un de l'autre, vous savez ce qui va se passer? Eh bien, chaque morceau d'éponge va devenir une éponge en soi. Elle va se restructurer et elle va commencer à grandir normalement. Elle va cicatriser ses blessures, les coupures qu'elle aura eues, tout doucement. Et elle va devenir de nouveau une éponge à part entière. Et là aussi, pour moi, c'est une image qui est intéressante. C'est une autre belle image parce que lorsque Dieu nous envoie quelque part, en tant qu'enfant de Dieu, revêtu de sa puissance, revêtu de son esprit, eh bien si Dieu nous envoie quelque part, nous sommes capables, avec son aide, de grandir. Nous sommes capables aussi, avec son aide, de faire des disciples. Et nous sommes capables, à notre tour, de créer une nouvelle église. Amen. Nous le voyons actuellement dans nos cellules de maison, où Dieu est en train d'envoyer des âmes dans de différents milieux, des personnes qui ne connaissent pas du tout le Seigneur. Nous avons là l'image merveilleuse dans nos cellules de ce que Dieu est capable de faire dans nos maisons, des petites églises. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes dans l'éponge. Il y a un savant qui s'appelle Monsieur Wilson qui a fait une expérience un jour. Il a pris une éponge, il l'a coupée en tout petits morceaux. Ensuite, il a pris une moulinette, vous savez, comme on avait dans le temps là. Et puis il a mouliné son éponge, et c'est vraiment un massacreur hein, cet homme. Hein. Et puis après, il a pris les petits morceaux, ça ne lui suffisait pas encore, il les a mis dans un tissu, et il les a tamisés. Et puis il a tout remis dans l'eau de nouveau. Et à sa grande surprise, au bout de quelques jours, il a eu des milliers et des milliers de jeunes éponges qui ont commencé à repousser. Vous savez ce qu'il a dit ce savant? Je vais vous lire ce qu'il a dit. Il a déclaré « Cette bestiole est increvable, plus on s'acharne sur elle, plus elle prolifère. » Les réactions du savant. Mais c'est exactement ce qui s'est passé à travers l'histoire de l'humanité avec la parole de Dieu. avec les enfants du Seigneur. C'est exactement la même chose. Plus on a essayé de détruire la parole de Dieu, plus elle s'est propagée dans le monde. Plus, c'est le livre, actuellement encore, depuis des années, c'est le livre le plus vendu au monde. Plus on a persécuté les chrétiens, plus l'évangile s'est propagé. Et c'est encore valable aujourd'hui. J'ai eu l'occasion et j'ai encore l'occasion d'aller dans des pays qui soi-disant sont totalement fermés à l'évangile. Eh bien, je me réjouis de savoir que dans certains pays, dans un pays que je visite régulièrement, il y a en moyenne 50 baptêmes par mois. Plus on met la pression, plus les gens se tournent vers le Seigneur. C'est exactement comme notre éponge broyée, hachée, on lui fait mal, mais plus on lui fait mal, plus elle se multiplie. Et avec le Seigneur, c'est exactement la même chose. En Chine, il y a je ne sais plus combien de conversions par jour. Pourtant, la pression est grande. Pourtant, on envoie les chrétiens en prison. Ils subissent des sévices. Mais la multiplication ne s'arrête pas. On a lu un article dernièrement dans un journal français, le Nouvel Observateur, qui disait qu'avant-guerre, les chrétiens nés de nouveau étaient 4 millions dans le monde avant la guerre. 4 millions. Aujourd'hui, le même journal disait, nous sommes 500 millions. C'est l'Église qui a la croissance la plus importante. On ne peut que se réjouir de cela. Plus la pression augmente, plus le diable mettra la pression sur l'œuvre de Dieu, plus la multiplication se fera. Cette bestiole est increvable. C'est le savant qui a dit ça, hein. Les scientifiques affirment une autre chose. Ils affirment que les cellules de l'éponge sont capables de repartir à zéro et de tout recommencer. Ça me rappelle quelque chose. Un petit chant qu'on chante très souvent. Jésus nous propose aujourd'hui à nous aussi, tu peux tout recommencer et repartir à zéro. Avec lui, on peut tout recommencer et repartir à zéro. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mettre un trait sur notre vie passée et dire à Jésus, oui, moi je veux te suivre. Oui, je veux par la foi accepter ton sacrifice, ce que tu as fait pour moi à la croix, je l'accepte. Certains dimanches ont traduit cette nouvelle naissance par une alliance qu'ils ont faite avec l'Éternel en entrant dans les eaux du baptême. Et nous nous sommes réjouis dimanche de voir toutes ces personnes entrer dans les eaux du baptême et faire alliance avec le Seigneur et recevoir leur nom inscrit dans le livre de vie. Voilà ce que Dieu nous promet. Voilà une promesse de Dieu. Et je vous rappelle, et on l'a vu ensemble, tout ce que Dieu a écrit, tout ce qu'il a dit, toutes les promesses, elles sont pour nous. Amen. Repartir à zéro avec Jésus. L'éponge est donc le dernier animal qui est entré en contact avec Jésus, qui était mourant sur la croix. Et nous avons là un symbole très fort. L'éponge préfigurait ce qui devait arriver très très bientôt, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ. On a vu ensemble que c'était la championne du monde de la résurrection, hein. Même passée à la moulinette, passée à travers un tamis, elle était capable de revenir à la vie et de se restructurer. Si on enferme, si on met une éponge derrière un grillage, vous savez ce qui va se passer ? Tout doucement, l'éponge a toujours envie d'aller au large. Si on la met derrière un grillage, elle va commencer à construire de l'autre côté du grillage et lentement se détruire à l'intérieur du grillage. Et une fois que tout le monde a passé, voilà, elle s'enfuit. On ne la trouve plus. Rien ! Absolument rien ni personne n'a pu empêcher la résurrection de Jésus-Christ. On a payé des gardes. On a mis des gardes, surtout parce qu'on s'est rappelé que Jésus avait dit que le troisième jour, il ressusciterait. Alors on a mis des gardes. On leur a donné de l'argent ensuite, quand on s'est aperçu que quand même, malgré qu'ils étaient là, malgré qu'ils servaient de grillage, malgré cela, Jésus n'était plus là. Alors on les a payés pour qu'ils racontent une espèce d'histoire. Mais jamais, jamais ils n'ont pu prouver que Jésus était mort. Pourquoi ? Parce qu'il est ressuscité, tout simplement. Parce qu'il est réellement ressuscité. Vraiment, je crois que l'Éternel n'aurait pas pu prendre une image plus belle au moment de la mort de Jésus que cette éponge. Lorsque j'ai lu toutes ces particularités, mon cœur était réjoui. J'ai vraiment réjoui. Je dis, Seigneur, vraiment, toi, tu fais mais rien au hasard. Et ça vaut vraiment la peine de fouiller lorsque tu nous montres un détail. En conclusion, Jésus a dit, tout est achevé. Ses souffrances, maintenant, sont terminées. À la fois celles de son âme, mais aussi celles de son corps. L'œuvre de la rédemption de l'homme, eh bien, et son salut sont désormais achevées. Nous avons obtenu le salut par la mort de Jésus. Sa mort est surprenante. Son supplice a duré en tout 6 heures. C'est extraordinaire. Flavius Joseph, dans ses écrits, dit, vous savez, la crucifixion, c'était rien d'exceptionnel à l'époque de Jésus. On crucifiait énormément de gens à l'époque de Jésus. On en a crucifié plus encore après sa mort. Mais la crucifixion était quelque chose d'habituel. Et Flavius Joseph, tel un journaliste, eh bien, rendait des comptes sur les crucifixions. Et c'est intéressant de savoir qu'en règle générale, un crucifié mettait entre 24 et 72 heures avant de mourir. Vous pouvez imaginer. Jésus, lui, 6 heures. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas les hommes qui lui ont ôté la vie. C'est lui qui a donné sa vie. Il a donné sa vie. La vie de Christ ne lui a pas été prise de force. Il a donné sa vie librement. Librement pour chacun d'entre nous. Pour nous sauver. Il avait cette soif en lui de sauver les humains. Il savait que c'était son lot. Dieu lui avait montré qu'il devait passer par là. Il a été jusqu'au bout. Dans les prophéties, la faim et la soif sont toujours synonymes du jugement de Dieu. Vous pourrez vérifier chez vous dans Deutéronome chapitre 28, verset 48, Ésaïe 5, verset 13, Ésaïe 65, 13 et bien d'autres versets encore. Mais après, le tout est accompli, voilà ce que nous dit Jésus. Dans le chapitre 4 de Jean, il est écrit là au verset 14. « Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Amen. Pour la vie éternelle. C'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine ce jour-là. Jean chapitre 6, verset 35, il est écrit « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui met en moi sa foi en moi n'aura jamais soif. » Souvenons-nous de ces instants terribles à la croix du calvaire. Le cri de Jésus « J'ai soif !» et cette éponge qui atteint sa bouche. Jésus, ce soir, est prêt à passer l'éponge sur notre vie passée. Il est prêt à passer l'éponge et nous pardonner. Il est prêt à passer l'éponge sur nos dettes. Il est prêt à pardonner toutes nos transgressions, toute notre vie aussi mauvaise qu'elle a été. Si tu dis à Jésus ce soir, j'ai soif de toi, Seigneur, eh bien, mon ami, sois-en certain, le Seigneur te désaltérera. Parce qu'il tient, lui, ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, il tient ses promesses. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, au verset 6, il est écrit là, « C'est fait. Je suis, c'est Jésus qui parle, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. » Lorsque Jésus nous désaltère, nous recevons ce qu'il a promis à ses enfants. Nous recevons la plénitude de ce qu'il a promis. Et je voudrais relire maintenant avec vous ce verset que Claude a lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean au chapitre 7, verset 37 jusqu'à 39. Prenons ce verset ensemble. Il est tellement important, il est tellement merveilleux. Ce verset a été dit par Jésus juste avant qu'il soit crucifié. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela, c'est ça qui est intéressant maintenant, il dit cela au sujet de l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui, car il n'y avait pas encore d'esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus n'étant pas crucifié encore, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir dans sa plénitude comme nous l'attendons, nous, ce soir. Jésus ayant donné sa vie sur la croix, ce soir, nous pouvons tous nous réjouir dans l'attente de recevoir une visitation du Saint-Esprit. Dans l'attente de recevoir, pas seulement le don du parler en langue, mais la plénitude du Saint-Esprit. Cet esprit de vie, ce Saint-Esprit dont nous avons besoin, que nous avons besoin chaque jour, au quotidien, pour nous donner des directions dans nos vies, dans nos choix, etc. Nous avons besoin d'être visités par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de cet esprit dont Jésus nous parlait là. Il dit cela au sujet de l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui. Ce soir, Jésus nous invite à mettre notre foi en lui afin de recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous réjouissez, frères et sœurs? Il n'est pas dit que c'était réservé pour l'élite de la mission du plein évangile, la porte ouverte chrétienne. D'ailleurs, on ne sait même pas qui est l'élite. Non, c'est marqué ici clairement, ceux qui mettraient leur foi en lui. Jésus glorifié. Eh bien maintenant, nous pouvons recevoir la plénitude de son esprit et vivre les promesses merveilleuses que Jésus nous a donné. Il faut nous approcher de Dieu ce soir. Il faut nous approcher de lui et lui dire, tous autant que nous sommes, « Seigneur, j'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi, Jésus. Je veux plus de toi. Je veux moi aussi que des fleuves d'eau vive coulent de mon sein comme tu me l'as promis. Je veux que des hommes et des femmes puissent recevoir à boire au travers de mon témoignage, au travers de ma vie, parce que tu l'as dit, parce que tu l'as promis, Seigneur. » Est-ce que c'est votre désir ce soir ? D'être ces fleuves d'eau vive pour que des centaines, des milliers de personnes trouvent également ce trésor extraordinaire qu'est Jésus-Christ, ce trésor extraordinaire qu'est Dieu le Père et ce trésor extraordinaire qu'est le Saint-Esprit. Il nous faut nous approcher de lui. Si on ne s'approche pas de lui, si on n'a pas soif de lui, irrémédiablement, nous mourrons. Pour tuer une éponge, c'est très simple. On la sort de l'eau. On la laisse pourrir quelques jours et c'est terminé. C'est fini. Mais tant qu'elle est dans l'eau, on ne peut pas la détruire. On ne peut pas, c'est impossible. Elle se multipliera toujours, elle recommencera toujours à redémarrer, à revivre. Ayons soif de Dieu ce soir, ayons soif de Jésus.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.